Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Sébastien Lemay.
Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Appel sur l'actualité. Comme tous les jours, RFI vous donne la parole. Nous débattons ensemble des thèmes d'actualité, des thèmes qui vous sont chers. Dans 30 minutes, on parlera des inondations. Chaque année, les grandes villes africaines, notamment les capitales, sont touchées par des drames. Encore récemment, Khartoum, au Soudan, Abidjan, en Côte d'Ivoire. Beaucoup de villes sont presque tous les ans les pieds dans l'eau, comme on dit, avec tous les problèmes de santé, d'hygiène, économiques, sociaux que cela engendre. Vous souhaitez en parler avec nous, faire partager vos expériences, vos réflexions, notamment, bien sûr, connaître les causes, nous expliquer les causes et peut-être les solutions à ces inondations. Rejoignez-nous 09 693 693 70 ou 33 9 693 2 fois 70 si vous appelez de l'étranger. Notre adresse mail appelaupluriel.actu@rfi.fr et n'oubliez pas nos comptes Facebook et Twitter. Avant le débat, comme chaque jour, vos questions à la rédaction avec un premier auditeur, Claude Lionel. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes au Cap en Afrique du Sud. Justement, vous avez une question concernant l'actualité judiciaire.
Oui, premièrement, j'aimerais vous saluer, vous Sébastien, et tous les auditeurs de la RFI.
Merci.
Alors, moi je vous appelle ce matin, c'est pour que vous puissiez m'aider à éclairer ma lanterne concernant le procès des 20 Congolais et de la RDC, qui se tient actuellement à Pretoria.
Alors effectivement, 20 Congolais qui accusaient d'avoir fomenté un coup d'État contre le gouvernement de Kinshasa. Pour vous répondre, notre correspondante en Afrique du Sud, Lisa Fabian, est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors c'est vrai qu'en Afrique du Sud, le procès de ces Congolais présentés comme des rebelles s'est ouvert donc lundi à Pretoria, comme l'a dit Claude Lionel. Ils ont été inculpés, je cite, d'activités mercenaires et de complots en vue de coups d'État. Ils ont tous plaidé non coupables. Ils avaient été arrêtés l'an dernier après une longue opération d'infiltration de la police sud-africaine. La justice dit avoir des preuves de leur projet pour renverser Joseph Kabila. Leurs proches parlent d'une manipulation. Lisa, qui sont ces 20 Congolais d'abord?
Alors le dénominateur commun entre ces 20 rebelles présumés, c'est bien sûr qu'ils sont tous originaires de RDC. Ces hommes sont âgés de 25 à 49 ans et la plupart vivent en Afrique du Sud depuis plus de 10 ans. Deux d'entre eux sont même installés dans le pays depuis plus de 20 ans. À noter tout de même que l'un des accusés est un résident américain. C'est une adresse aux États-Unis qui a été donnée ce mardi par le procureur lorsqu'il a décliné l'identité de cet homme. Alors selon l'accusation, les prévenus font tous partie de l'Union des nationalistes pour le renouveau de la RDC, l'UNR. C'est un mouvement au sein duquel ils auraient préparé un coup d'État contre Kinshasa. Mais la version de la défense est bien différente, puisque selon les avocats qui les représentent, ces hommes ne se connaissaient pas tous et démentent tout lien avec l'UNR. D'après leur soutien qui dénonce une machination, les 20 prévenus auraient été en fait mis en contact par la police sud-africaine elle-même. Une chose est sûre, c'est l'accusé numéro 20, Étienne Kabila, qui est présenté depuis le début comme le cerveau du groupe. En février 2013, la police a d'abord arrêté 19 rebelles présumés, avant d'interpeller 3 jours plus tard Étienne Kabila au Cap. Celui-ci se présente comme le fils aîné de l'ancien président congolais Laurent Désiré Kabila. Il prétend donc être le demi-frère de Joseph Kabila, dont il a contesté publiquement la légitimité. Mais pour Kinshasa, il s'agit d'une imposture et le porte-parole du gouvernement congolais dément formellement tout lien de parenté entre Étienne et Joseph Kabila.
Merci Lisa, restez avec nous parce que Claude Lionel a encore une question. Vous êtes toujours en ligne avec nous?
Oui, je suis toujours là.
On vous écoute pour votre seconde question.
Et ma seconde question, c'est de savoir sur quoi la justice sud-africaine base-t-elle ses accusations?
Lisa, la réponse?
Eh bien, on l'a dit, l'arrestation de ces 20 rebelles congolais présumés a été rendue possible grâce à une opération d'infiltration de la police sud-africaine, c'est-à-dire qu'une taupe de la police s'est intégrée dans leur groupe et a pu suivre leurs activités pendant plusieurs mois. L'accusation aurait donc entre les mains des emails échangés entre les accusés, des enregistrements de leurs conversations téléphoniques et même des films de leurs réunions dont elle va se servir pour prouver leurs liens et leur culpabilité. Les 20 prévenus devront notamment expliquer expliquer comment ils ont pu se retrouver tous ensemble dans une station-service proche de Johannesburg quelques jours avant leur arrestation. Lors de cette réunion, ils auraient été filmés en train de réitérer leur intention. Et puis, il y aura aussi le témoignage très attendu du policier infiltré. Celui-ci a donc suivi le groupe pendant plusieurs mois et les accusés lui ont remis une liste impressionnante détaillant le matériel et les nombreuses armes qu'ils souhaitaient acquérir pour mener à bien leur opération. Une autre preuve accablante selon l'accusation.
Et en parlant de preuve, justement, Kinshasa s'était exprimé là-dessus. Hein. Lambert Mende, le ministre de la Communication, avait dit que ces hommes avaient été arrêtés avec 5000 AK-47, 50 roquettes, des missiles, des valises satellites, un millier de grenades. Donc, des preuves a priori concrètes, en tout cas selon l'accusation et selon Kinshasa. Comment la défense, Lisa, va faire pour essayer d'innocenter ces rebelles présumés?
Eh bien, d'abord, la défense va essayer de montrer que ces hommes n'avaient pas de lien entre eux, qu'ils ne se connaissaient pas tous, et que même si certains étaient en relation, ils n'ont jamais formé un groupe de comploteurs. Mais l'accusation, la défense va surtout essayer de prouver que ces hommes ont été encouragés dans leur projet par la police sud-africaine. L'un des avocats m'a expliqué que la loi sud-africaine permet, dans certains cas, à la police de pousser les gens à préparer des coups d'État afin de pouvoir les inculper et les arrêter. C'est donc la manière dont le piège a été organisé par la police qui va être longuement discutée pour tenter de faire toute la lumière sur les intentions réelles de ces 20 rebelles présumés.
Merci beaucoup Lisa Fabian, notre correspondante en Afrique du Sud. On salue Claude Lionel qui nous écoutait depuis le Cap. Merci de nous avoir appelé et demandé ces précisions à la rédaction. 33 9 693 693 70 pour nous joindre à tout moment. 09 693 2 fois 70 si vous appelez de France. Alors on devait avoir Ouin Ayamoussoukro en Côte d'Ivoire pour nous poser une question à propos de la Syrie et du Liban. On ne l'a pas en ligne malheureusement. Donc je vais poser les questions à sa place. Ça concerne justement l'infiltration des djihadistes syriens côté libanais de la frontière. Il y a eu des affrontements entre l'armée libanaise et ces djihadistes venus de Syrie, notamment à Ersal, près de la frontière, une ville libanaise envahie par les djihadistes syriens. L'armée parle de 17 soldats tués dans ses rangs. Elle parle de dizaines d'islamistes également abattus. Une quarantaine de civils seraient morts, selon le HCR. Paul Ralifé, vous êtes en ligne avec nous depuis Beyrouth. Bonjour Paul.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Alors, Ouin avait cette première question, savoir, en fait, il se demande quel est l'objectif poursuivi par ces groupes djihadistes, l'État islamique et le front al-Nosra. Qu'est-ce qu'ils cherchent au Liban ?
Sébastien, le prétexte invoqué par les djihadistes pour attaquer l'armée libanaise est l'arrestation samedi 2 août dans la région de Arfel, à la frontière libano-syrienne, de l'un de leurs chefs, Ahmad Jouma. Ce dernier dirige une brigade islamiste, Fajr al-Islam, qui a récemment prêté allégeance à l'État islamique et à son calife Ibrahim, comme en atteste une vidéo publiée sur YouTube. Mais la rapidité avec laquelle les djihadistes ont attaqué simultanément plusieurs positions de l'armée montre qu'ils étaient bien préparés. Cela confirme les déclarations du commandant en chef de l'armée libanaise, le général Jean Karouaji, qui a parlé d'un plan dangereux qui consistait à reproduire au Liban les scénarios syriens et irakiens. Selon l'armée, Jouma a été en mission de reconnaissance pour mettre les derniers points à ce plan et décider du timing de l'opération. Depuis un certain temps déjà, les services de sécurité libanais étaient au courant d'un plan visant à enlever des militaires pour les échanger contre des islamistes détenus dans les prisons libanaises. D'autres informations sur des attaques contre des villages chrétiens autour de Arsen ont aussi circulé. Romain Caillé, qui est spécialiste français des groupes islamistes radicaux et chercheur à l'IFPO de Beyrouth, pense lui que l'objectif des djihadistes à travers cette offensive est de s'implanter solidement au Liban.
Alors, se pose la question de cette infiltration des djihadistes côté libanais, se pose la question des frontières. Évidemment, est-ce qu'elles sont poreuses ou pas? Comment ces groupes armés parviennent-ils à entrer côté libanais de la frontière?
En fait, les 375 kilomètres de frontière entre le Liban et la Syrie sont loin d'être sécurisés. Cette frontière est au contraire poreuse dans les deux sens. Elle n'est d'ailleurs pas tracée et il existe souvent des enchevêtrements territoriaux. Certains villages se situent ainsi à cheval entre les deux pays. Depuis le début de la crise syrienne, le Liban a eu beaucoup de mal à contrôler le flux de réfugiés et les déplacements de population dans les deux sens. C'est par la frontière libanaise qu'ont transité les plus grandes quantités d'armes et de combattants destinés aux rebelles syriens. C'est d'autant plus vrai que des régions qui ont toujours vécu de la contrebande, comme Hassel et Wadi Khaled, étaient acquises à la cause des rebelles. C'est aussi cette même frontière que traversent des milliers d'hommes du Hezbollah pour aller se battre aux côtés de l'armée syrienne. Le Liban n'a ni les moyens techniques ni la volonté politique nécessaire pour boucler sa frontière avec la Syrie.
Alors Paul, est-ce qu'il y a un risque, c'est une question vraiment qui tourne depuis des semaines, des mois, même carrément depuis le début de la guerre en Syrie, est-ce qu'il y a un risque de propagation du conflit syrien au Liban?
Le Liban est déjà plongé dans la guerre syrienne depuis longtemps. Politiquement d'abord, les Libanais sont profondément divisés au sujet de ce conflit et cette division se traduit par un blocage total des institutions et l'incapacité d'élire un président de la République et de réunir le Parlement. L'exacerbation des tensions a provoqué des rounds meurtriers de combats entre alaouites et sunnites. Une vingtaine de rounds qui ont fait ces trois dernières années des centaines de morts et de blessés, notamment à Tripoli, la deuxième ville du Liban. Sur le plan de la sécurité, c'est en Syrie que les voitures piégées étaient préparées et envoyées dans les fiefs du Hezbollah, dans la plaine de la Beka et dans la banlieue sud de Beyrouth. Les attentats suicides ont fait dans ces régions, depuis juillet 2013, des centaines de morts et de blessés. Enfin, les combats de Hassel montrent que les choses peuvent aller beaucoup plus loin et se transformer en guerre ouverte.
Merci beaucoup Paul Ralifet, notre correspondant à Beyrouth. On salue Ouin qui nous écoutait depuis Yamoussoukro. Dans les dernières infos concernant cette affaire d'Ersal à la frontière entre le Liban et la Syrie, il faut savoir que deux cheikhs salafistes ont annoncé hier avoir obtenu le retrait dans les 24 heures de tous les djihadistes qui ont pris le contrôle samedi de la ville libanaise d'Ersal. La libération des soldats et des policiers ferait partie de l'accord. On a un cessez-le-feu qui est prolongé jusqu'à aujourd'hui 19h, mais quand même il y avait encore des combats et des bombardements intermittents de l'armée libanaise qui avait repris hier soir. 33 9 693 693 70 si vous nous appelez de l'étranger, 09 693 2 x 70 si vous nous appelez de France, pour nous joindre à tout moment au standard. N'oubliez pas notre adresse email appelaupluriel.actu@rfi.fr. On passe à l'auditeur suivant. Nous sommes en ligne avec Élie. Bonjour.
Bonjour Sébastien, comment vous allez?
Mais très bien, merci. Vous nous appelez depuis Lomé au Togo et vous avez des questions concernant l'Argentine. On vous écoute, Élie.
Effectivement, je souhaite revenir sur l'actualité économique de l'Argentine. Et pour la deuxième fois en 13 ans, l'Argentine, qui est la troisième économie de l'Amérique latine, est confrontée à un défaut de paiement. Donc, le pays avait jusqu'au 31 juillet dernier pour payer 539 millions de dollars à ses créanciers financiers. Mais il n'a pas réussi à s'accorder lors des négociations avec les fonds spéculatifs américains, ces derniers ayant refusé de participer à la restructuration de la dette du pays. Et donc, j'ai trois questions à cet effet.
Allez-y.
La première, qu'est-ce qu'un fonds spéculatif et pourquoi ces fonds sont dénommés des fonds vautours? La deuxième question, depuis cet échec, la dette de l'Argentine est donc exigible. Mais le ministre argentin de l'économie, Axel Kicillof, si mes souvenirs sont bons, a affirmé que son pays n'était pas en déficit de paiement. Et donc, pourquoi l'Argentine ne décide-t-elle pas de régler ses fonds sur le champ et se tirer ainsi d'affaires? Donc, la troisième question, si vous le permettez bien. Également, les agences de notation financière ont abaissé la note du pays, ayant pour conséquence directe la privation de l'Argentine au marché international de capitaux. Alors, à court, moyen et long terme, quelles peuvent être les conséquences de cet état de fait? Peut-on craindre, par exemple, une dévaluation du peso, qui est la monnaie de l'Argentine, et même du phénomène inflationniste dans le pays?
Pour vous répondre, merci beaucoup Élie. Pour vous répondre, Agnieszka Kumor du service Eco est là avec nous. Bonjour.
Bonjour, bonjour Élie.
Qu'est-ce qu'on peut dire justement sur ces fonds spéculatifs vautours?
Mais ce sont deux choses en fait. Un fonds spéculatif met en commun le capital d'un certain nombre d'individus ou d'institutions d'ailleurs, auxquels il applique les stratégies spéculatrices interdites aux fonds traditionnellement vendus. Souvent domiciliés offshore, ces fonds spéculatifs ont pour objectif de rentabiliser leurs apports en s'accaparant le plus vite possible des plus-values sur le capital. En revanche, les fonds vautours, c'est aussi des fonds spéculatifs, mais ils achètent à prix cassé les dettes des États ou des entreprises en difficulté et exigent ensuite leur remboursement. Et les investisseurs tentent de récupérer leurs investissements avec les intérêts, y compris par le biais de procès.
Et donc, c'est ce qui est arrivé pour l'Argentine.
C'est bien cela. Depuis sa faillite en 2001, le pays rembourse 93% de ses créanciers privés à hauteur de 30% de la mise initiale. C'est-à-dire que ces derniers ont accepté, en effet, comme vous l'aviez dit d'ailleurs, Elie, une restructuration de la dette. En revanche, Buenos Aires s'est heurté aux 7% restants, parmi lesquels les fameux fonds vautours, deux fonds spéculatifs américains, NML et Aurelius. Ils n'ont jamais accepté la décote, contrairement aux autres créanciers, et ont obtenu, devant la justice américaine, de récupérer la totalité de leurs créances. Soit 1,3 milliard de dollars que l'Argentine doit leur payer, et ceci avant les autres créanciers. Pour le ministre de l'économie argentin, effectivement, Axel Kicillof, son pays n'est pas en situation de défaut de paiement, car, dit-il, Buenos Aires va rembourser les porteurs de bons issus de la dette restructurée, mais à des conditions raisonnables, sans tentative d'extorsion, dit-il. Problème, la décision du juge américain bloque ce paiement. L'Argentine doit d'abord payer les deux fonds en question. D'après certains spécialistes, la somme que doit leur payer l'Argentine reviendrait à une rentabilité de 1600% par rapport au montant investi initialement.
Et qu'est-ce qu'on peut dire sur l'inflation maintenant, Anishka ?
Alors, l'inflation tutoie déjà des sommets. Elle pourrait atteindre, selon certains, les 30% cette année. Une inflation aggravée par la dévaluation de la monnaie nationale en début d'année. Voilà qui n'arrange pas les affaires de l'Argentine. Son économie recule et on craint un retour à la récession. Les salaires ne suivent plus, la hausse des prix, le pays est confronté à une fuite des capitaux et l'automobile, l'industrie phare de l'Argentine, subit l'effondrement à l'export comme sur le marché intérieur.
Restez avec nous, Agnieszka, parce qu'il y a d'autres questions au standard. Nous sommes en ligne avec Mandela. Bonjour Mandela.
Bonjour Sébastien.
Vous nous appelez depuis Abidjan, Côte d'Ivoire, et vous aviez également des questions concernant le cas financier de l'Argentine.
Effectivement. Bon, mes questions sont les suivantes. La première, quels sont les recours possibles pour l'Argentine ? La seconde, comment un pays si important de la sous-région peut se retrouver dans une situation économique si difficile ? Et existe-t-il des risques de déstabilisation économique pour les partenaires commerciaux de l'Argentine en Amérique du Sud ?
Alors, Agnieszka, l'Argentine a déjà entamé des recours. Hein.
Oui, l'Argentine a décidé de saisir l'autorité boursière américaine. Elle va également demander la révocation du médiateur nommé dans cette affaire, le soupçonnant de partialité, hein, tout simplement. On peut imaginer que les discussions continuent quand même, car les deux parties ont l'intérêt à ce qu'un accord soit trouvé. Mais si le défaut de paiement se prolonge, cela devient très difficile pour l'Argentine. Les partenaires commerciaux, Mandela, sont déjà déstabilisé à cause du ralentissement de son économie. Depuis 13 ans, l'Argentine ne se finance plus sur les marchés internationaux. Ses réserves en devises sont passées de 52 à 27 milliards et demi de dollars. Il est probable que ce soit à nouveau les Argentins qui aient à payer la note. Les Argentins qui sont très remontés à la fois contre les fonds vautours et contre leur propre gouvernement qui n'a pas fait suffisamment de réformes pour relancer l'économie du pays.
Agnieszka Comor en direct avec nous sur RFI du service économie. Merci beaucoup Agnieszka.
Merci.
On salue Mandela qui nous écoutait depuis Abidjan et Elie depuis Lomé. Merci beaucoup pour vos questions. Restez avec nous. On va marquer une courte pause puis ce sera l'heure du journal et puis dans 10 minutes notre débat avec les inondations dans les capitales africaines puisqu'on a compté pas moins de 30 morts à Abidjan ces dernières semaines, 17 à Khartoum au Soudan avec des milliers de maisons détruites. D'autres villes sont touchées régulièrement, quasi chaque année, à Dakar, Bamako, N'Djamena, Accra, etc. Quelle est la cause de ces catastrophes ? Trop d'habitations dans les zones inondables, erreur dans l'attribution des permis de conduire, mauvais système d'assainissement. Vous nous faites partager vos réflexions, vous nous appelez 09 693 693 70, 33 9 693 2 fois 70 si vous nous appelez de l'étranger. N'oubliez pas notre adresse email, nos comptes Facebook et Twitter pour laisser vos messages. À tout à l'heure.
Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures.